Bienvenue pour cette exploration des sources d'aujourd'hui. Au menu, une plongée dans le magazine eWeek numéro 104, celui du 2 novembre 2025. Et puis, quelques autres documents aussi. On va naviguer entre géopolitique, grands projets, société, tech, culture, sport. Enfin, un panorama assez large. L'objectif, en extraire la substance, repérer les infos clés, les liens parfois un peu surprenants, hein, pour avoir une vision claire des enjeux. Alors, c'est parti pour décortiquer tout ça. On commence fort avec la géopolitique. Il y a eu ce discours majeur de Sa Majesté le roi Mohamed VI, prononcé le 31 octobre 2025. Apparemment, il parle d'un, je cite, « nouveau chapitre victorieux pour le Sahara ». Il marque un avant et après cette date, 50 ans après la Marche verte. Et l'initiative d'autonomie, elle, est réaffirmée comme l'unique base de négociation.
Oui, et ce qui frappe dans ce discours, au-delà de la commémoration, c'est vraiment ce changement de paradigme qui est revendiqué. On passe d'une simple gestion du dossier, c'est le terme employé, à une dynamique de changement. Et cette dynamique, ben, selon le discours, elle porte ses fruits. L'accent est mis sur la reconnaissance internationale. Les USA, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'UE sont cités. Ça valide en quelque sorte cette approche et ça positionne les provinces du Sud comme un hub de développement régional, même en direction du Sahel. Le 31 octobre est vraiment posé comme une date fondatrice de cette nouvelle ère.
Ah oui, d'accord. Et il y a aussi des remerciements très ciblés, j'ai noté ça, les États-Unis sous Trump, la Grande-Bretagne, l'Espagne et un, spécialement, la France. C'est une reconnaissance publique assez directe, non ?
Tout à fait, c'est très direct. Et le discours s'adresse aussi explicitement aux frères dans les camps de Tindouf. Il les appelle à saisir ce qu'il nomme une opportunité historique, celle de l'autonomie, et en même temps une main tendue au président algérien pour un dialogue fraternel sincère.
D'accord, donc d'un côté on affirme la victoire, l'unité.
Oui, de Tanger à la Guira, la formule est forte.
Et de l'autre, des signaux d'apaisement, le Maroc qui ne chercherait pas à attiser les antagonismes et qui viserait une solution sans vainqueur ni vaincu, c'est ça?
C'est exactement ça. Et c'est là qu'on voit une rhétorique assez habile, je dirais. D'un côté, l'affirmation très forte et de l'autre, ces signaux d'ouverture.
Donc cette insistance sur... pas de vainqueur ni de vaincu, même avec un ton assez victorieux, c'est aussi une façon de rassurer les partenaires internationaux, peut-être, se montrer conciliant sur la forme.
Exactement. C'est une manière de consolider les acquis diplomatiques, économiques aussi, qui sont récents, tout en maintenant une posture d'ouverture, enfin, du moins en façade, hein, envers l'Algérie et pour la relance de l'Union du Maghreb. C'est une affirmation de la position marocaine qui s'appuie très clairement sur les évolutions récentes à l'ONU et puis bah, les reconnaissances obtenues.
D'accord. Restons à l'international, mais changeons de rive de la Méditerranée. Allons en France. Il y a eu un événement politique assez inattendu, semble-t-il, à l'Assemblée nationale. Un vote très serré, 185 contre 184.
Ah oui.
Pour demander la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. C'était une proposition du Rassemblement national.
Oui, un accord historique, hein, faut le rappeler. Il régit spécifiquement l'entrée, le séjour, l'emploi des Algériens en France. Il leur donne un statut plus favorable que celui des autres étrangers hors UE. Alors il faut bien préciser, ce vote est symbolique. La résolution, elle n'est pas contraignante pour le gouvernement. C'est lui seul qui peut dénoncer un traité international.
Bien sûr.
Mais politiquement, oui, le symbole est fort. Et il faut noter qu'une partie des Républicains et du groupe Horizon a voté pour.
Oui, c'est ça. Et la droite, l'extrême droite, ça fait longtemps qu'ils réclament ça. Ils parlent d'exception migratoire. Le RN, évidemment, crie victoire. La gauche, la majorité présidentielle, dénonce un vote dangereux. Ce qui est assez frappant aussi, c'est que l'absentéisme, surtout dans le camp présidentiel, a joué un rôle clé dans ce résultat si serré.
Tout à fait. Ça illustre bien les crispations françaises sur l'immigration. Et puis, ça donne une victoire politique, même symbolique, au RN sur son, on va dire, son terrain de prédilection. Et ça relance surtout le débat, hein, sur l'avenir de cet accord bilatéral très particulier. Dans un contexte politique tendu en France, et puis bon, des relations franco-algériennes qui sont souvent complexes.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on quitte la politique pure pour les grands projets d'infrastructure. Avec le retour en force, on dirait, du projet de tunnel sous le détroit de Gibraltar. Une étude espagnole récente, menée par une entreprise allemande, Ehrenknecht, le juge techniquement réalisable. Coût estimé pour la partie espagnole seule, 8,5 milliards d'euros. C'est énorme!
Ah oui, c'est un serpent de mer, ce projet. Il a près de 50 ans. Et là, il semble gagner en crédibilité technique. L'étude confirme donc la faisabilité, malgré d'énormes défis géologiques. Il y a notamment le fameux seuil de Camarinal. C'est une crête sous-marine particulièrement complexe à traverser. La première étape qui est envisagée, ce serait une galerie de reconnaissance. Rien que ça, ce serait un chantier de 6 à 9 ans.
6 à 9 ans ? Juste pour la galerie de reconnaissance.
Oui, et le tunnel complet, lui, pourrait voir le jour, si tout va bien, entre 2030 et 2040.
D'accord, c'est un horizon encore lointain, mais on parle d'une décision des gouvernements marocains et espagnols espérée d'ici 2027. Et ce tunnel, ce ne serait pas juste un simple tube pour faire passer des trains, si j'ai bien compris. Hein.
Non, non, l'ambition est bien plus large. Il est vraiment vu comme un lien stratégique Europe-Afrique, pas seulement pour les passagers et les marchandises, mais potentiellement aussi pour des interconnexions électriques, de la fibre optique.
Ah oui.
C'est un projet vraiment structurant qui redéfinirait complètement les échanges sur le détroit. On parle aussi du financement européen via les fonds Next Generation et puis la viabilité économique qui est souvent le point critique pour ce genre d'ouvrage, ben elle est à l'étude. On s'inspire d'autres tunnels, comme celui sous la Manche.
D'accord, très intéressant. Autre secteur qui semble en plein essor au Maroc, l'industrie, et notamment la défense. Le groupe indien Tata a lancé la production de véhicules blindés, les APTR, pour les Forces armées royales, les FAR.
Oui, et ça, c'est significatif. Ça montre la volonté marocaine de monter en gamme dans son industrie de défense et de gagner en autonomie. L'usine, elle est près de Casablanca. Elle devrait produire plusieurs dizaines de véhicules par an, avec un objectif à terme de 100. Et cette APTR, c'est une adaptation du modèle indien WAP. Il a été pensé pour les besoins spécifiques des phares, notamment en termes de mobilité, de modularité.
Et pourquoi Tata a choisi le Maroc pour cette implantation? Est-ce qu'on en sait plus?
Alors, les sources mettent en avant plusieurs choses, là. La stabilité politique, l'ouverture aux investissements. Et ça, ça fait écho à la dynamique dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et puis, la qualité des infrastructures logistiques, notamment portuaires. Ça ouvre la voie à l'export vers l'Afrique.
Logique. Ce partenariat est aussi présenté comme un transfert de compétences, avec de la formation de techniciens locaux, création d'emplois qualifiés. Les premiers blindés sont attendus d'ici 18 mois, apparemment.
18 mois, d'accord. Et cette dynamique industrielle, on la voit aussi dans l'automobile, n'est-ce pas? Renault annonce un plan d'expansion assez ambitieux, 7500 emplois de plus et un virage accéléré vers l'électrique d'ici 2030 sur les sites de Tanger et Casablanca. Oui, tout à fait. Ça confirme le Maroc comme une base industrielle majeure et compétitive pour Renault. Très orienté vers l'export d'ailleurs, le cap du million de véhicules produits a été franchi et ce plan s'inscrit pleinement dans la transition énergétique du groupe. On parle d'extension des lignes pour les hybrides et les électriques, de développement de compétences sur les batteries. Et là encore, le contexte marocain avec ses ambitions dans les énergies renouvelables, la plateforme logistique de Tanger Med, c'est clairement un atout pour attirer ce type d'investissement stratégique.
Très clair. Changeons de registre. Abordons des questions de société au Maroc. Le gouvernement a débloqué une enveloppe 27 millions dirhams pour des mesures d'urgence face au sans-abrisme et à la mendicité.
Ministre de la Solidarité Naïma Ben Yahia a donné des précisions sur la répartition. Environ 16,5 millions pour renforcer 31 centres d'accueil qui existent déjà pour l'hébergement, les soins, l'aide administrative et 11 millions pour acheter des unités mobiles d'assistance sociale. L'idée affichée, c'est de collaborer avec les associations pour trouver des solutions plus pérennes qu'une simple prise en charge ponctuelle, tout ça dans l'attente d'une stratégie nationale pour la famille qui est annoncée.
D'accord. Une approche combinée donc. C'est intéressant. Parlons culture maintenant, et plus spécifiquement du cinéma marocain. Les sources soulignent un paradoxe assez frappant. D'un côté, on a des films primés à l'international, comme Les Meutes ou Animalia, une production record, plus de 30 longs-métrages en 2024, mais de l'autre, une réception parfois difficile au Maroc même. C'est bien ça?
Oui, c'est ce que l'article appelle de manière assez directe « reconnaissance internationale versus hypocrisie locale ». À l'étranger, les films sont salués pour leur audace, pour leur regard sur la société marocaine. Au Maroc, eh bien, ils peuvent susciter de la méfiance, des jugements moraux. Certains spectateurs critiquent des scènes qu'ils jugent choquantes ou estiment que ces films donnent une mauvaise image du pays. Surtout quand ça touche à des sujets sensibles comme la sexualité, la religion, les inégalités.
Alors même que, c'est ce que pointent la source, ces mêmes spectateurs regarderaient sans problème des productions étrangères parfois bien plus crues.
Exactement. C'est ce double standard, ce deux poids deux mesures qui est mis en lumière. Le cinéma marocain, il agit comme un miroir, et parfois ça dérange, parce qu'il renvoie la société à ses propres réalités, à ses non-dits, et ça a un impact économique. Hein. D'après le Centre cinématographique marocain, seulement 15% des entrées en salle au Maroc en 2024 étaient pour des films nationaux.
Ah oui, quand même.
Oui. Donc, les cinéastes doivent constamment jongler entre leur liberté de création et la crainte de heurter une opinion publique parfois sensible, voire de subir des pressions, des accusations d'occidentalisation. C'est une tension assez révélatrice, je trouve, entre une vitalité créative qui est indéniable et les crispations d'une société en pleine mutation.
Passionnant comme sujet. Faisons maintenant un survol rapide de quelques actualités internationales marquantes qui sont mentionnées dans nos sources.
Alors, on commence à Paris avec l'enquête sur le vol au Louvre. 5 nouvelles arrestations, dont un suspect clé qui a été confondu par son ADN. Mais le butin, ces fameux bijoux estimés à 88 millions d'euros, il reste introuvable.
Toujours pas. Ensuite, une annonce qui a fait beaucoup de bruit. Donald Trump, depuis Air Force One, qui déclare que les États-Unis vont reprendre des essais nucléaires pour répondre à d'autres pays, dit-il. Ça met fin à un moratoire de fait qui durait depuis des décennies, même si les USA n'avaient jamais ratifié le traité d'interdiction complète des essais.
Oui, et la question qui reste, c'est de savoir s'il s'agit d'essais de missiles ou carrément de têtes nucléaires elles-mêmes. L'annonce est floue là-dessus.
Exact. Et ça suscite une grosse inquiétude sur une possible relance de la course aux armements, juste avant une rencontre prévue avec Xi Jinping en plus.
Timing intéressant. On part ensuite dans les Caraïbes, qui ont été durement frappés par l'ouragan Melissa. Passé en catégorie 5 avec des vents jusqu'à 300 km/h, il a causé une dévastation qualifiée de jamais observée par l'ONU en Jamaïque. Et il a aussi très lourdement touché Haïti, inondations, glissements de terrain. Le bilan humain provisoire approche les 50 morts dans les deux pays. C'est terrible.
Terrible, oui. Et pour finir ce tour d'horizon international, l'échec des pourparlers de trêve entre le Pakistan et l'Afghanistan qui avait lieu à Istanbul.
Oui, échec total. Les tensions restent très vives. Il y a eu des déclarations assez belliqueuses des deux côtés et un lourd bilan humain après de récents affrontements frontaliers et des frappes pakistanaises en Afghanistan. Le point de friction majeur, ça reste la présence de groupes armés comme le TTP, les talibans pakistanais, ou l'État islamique en territoire afghan.
D'accord, situation tendue donc. Allez, on termine avec un dernier tour de piste un peu plus éclaté. On va couvrir santé, tech, sport, culture et quelques brèves insolites ou préoccupantes. On commence par la santé alors.
Oui, au Maroc d'abord, 49 nouveaux centres de santé de proximité ont ouvert leurs portes. Sur le front de la recherche, on note des études qui lient l'inflammation chronique à certains troubles mentaux et une autre qui suggère une plus grande vulnérabilité génétique des femmes à la dépression.
Ah oui.
Oui. L'alerte majeure, elle concerne la contamination au plomb via le recyclage sauvage de batteries. Ça toucherait près d'un enfant sur trois dans le monde. C'est énorme.
Un sur trois ? C'est effrayant.
Oui.
Côté plus positif, des avancées contre le cancer de la prostate et pour traiter les séquelles d'AVC avec un médicament 2 en 1 prometteur. Et puis un rappel de bon sens, mais c'est toujours utile, ne jamais, jamais recongeler un aliment qui a été décongelé à température ambiante.
À cause des bactéries, salmonella, listeria.
Oui, la recongélation ne les tue pas. Au contraire, ça peut même aggraver le risque.
Exactement.
Et bien sûr, les conseils classiques pour booster son immunité avant l'hiver. Vitamine C, D, zinc, gingembre, bien dormir.
Voilà. Côté technologie maintenant. Le cabinet Gartner identifie plusieurs tendances fortes pour 2026, notamment des plateformes de développement qui seront dopées à l'IA, des supercalculateurs spécifiques pour l'IA, le besoin crucial d'informatique sécurisée, l'essor de systèmes où plusieurs IA collaborent, on parle de systèmes multi-agents, et une cybersécurité qui devient de plus en plus proactive, justement grâce à l'IA.
L'IA partout, donc. Et parmi les annonces et les rumeurs qui agitent le secteur, Xbox Cloud Gaming qui pourrait devenir gratuit avec de la pub.
C'est une des rumeurs, oui. OpenAI qui plancherait sur une IA générant de la musique, Apple qui intégrerait de la pub dans son application Plan, Amazon qui supprimerait massivement des postes administratifs, on parle de 30 000, suite à l'adoption de l'IA générative, et un iPad Pro M6 surpuissant qui arriverait en 2027.
Ça bouge vite. Et plus concrètement au Maroc.
On note le lancement du virement instantané par la Nakash, qui est une filiale de CIH Bank. C'est une première pour un établissement de paiement. Et puis l'octroi officiel des licences 5G aux trois opérateurs télécoms.
La 5G arrive donc. En sport maintenant. La grosse nouvelle qui a secoué le football marocain. C'est le retour de Hakim Ziyech. Il signe au Wydad Casablanca jusqu'en 2027. C'est un transfert majeur pour l'international de 32 ans.
Ah oui, un énorme coup médiatique et sportif. Ça s'ajoute à l'engouement incroyable pour la CAN 2025 au Maroc. Plus de 250 000 billets vendus en 3 jours. C'est un record absolu, apparemment.
Impressionnant.
Et Fouzil Egja, le président de la fédération, il lie ses succès, le Mondial 2022, le titre mondial U20, à une vision royale qui a été initiée il y a 15 ans. Il cite notamment l'Académie Mohamed VI. À noter aussi des succès marocains au marathon de Casablanca et le titre mondial de Jawad Zinid en hip-hop. Ça bouge aussi là.
Oui, belle dynamique. Quelques mots sur la culture Anta ?
Oui, rapidement. La rentrée littéraire organisée par le groupe Le Matin à Casablanca, les 20 ans du Festival des Andalousies Atlantiques à Essaouira, un festival emblématique, un grand show Gnawa qui est prévu à Jamaa El Fna en 2026 et l'installation du jury du Grand Prix National de la Presse.
D'accord. Et pour finir, l'insolite et le buzz.
Alors, il y a cette application Endless Summer. Elle permet de créer de fausses photos de vacances bluffantes grâce à l'IA. Ça fait fureur et ça fait débat aussi, forcément.
J'imagine, ouais.
L'histoire incroyable de cette planche de surf perdue en Tasmanie, retrouvée 18 mois plus tard et 2400 km plus loin en Nouvelle-Zélande.
Incroyable, oui.
Et puis, au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, qui entame son 8e mandat présidentiel.
Voilà. On termine sur deux notes un peu plus sombres, malheureusement.
L'ouverture d'une enquête à Tanger après le décès tragique d'un bébé dans une crèche.
Oui, une affaire très triste.
Et une autre enquête ouverte par le parquet concernant cette rumeur qui avait pourtant été démentie par l'ONSA, l'Office de sécurité sanitaire, de farine qui aurait été mélangée à du papier moulu. L'enquête vise à clarifier définitivement l'affaire, apparemment.
Bon, voilà, je crois qu'on a couvert beaucoup de terrain, de la géopolitique qui redessine les équilibres régionaux au grand chantier qui transforme le paysage, en passant par les défis sociaux, l'effervescence technologique, sportive et culturelle. C'était dense.
Oui, et ce qui est frappant, c'est de voir comment tout ça se répond, en fait. La posture géopolitique affirmée, la recherche de stabilité, ça semble clairement attirer les investissements industriels, comme Tata ou Renault. Ça semble aussi débloquer les grands projets comme le tunnel. Et cette dynamique, elle nourrit aussi une certaine fierté nationale qu'on voit dans le sport, par exemple.
Oui. Mais en même temps, on voit bien que des tensions internes émergent ou persistent. Le débat complexe autour du cinéma national et de la façon dont il reflète la société, c'est une bonne illustration de ça. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la route, une réflexion. Alors que le Maroc affiche de grandes ambitions, qu'il récolte une reconnaissance internationale croissante, comment peut-il concilier cette projection vers l'extérieur avec ses débats internes parfois vifs sur son identité, sa culture, ses valeurs, comme l'illustre justement la réception de son propre cinéma ? Comment tisser un récit national qui soit à la fois ancré, authentique et en même temps ouvert sur le monde ?
Vaste programme.
Vaste programme, en effet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.